édition du jeudi 4 octobre 2018. Au sommaire, à quoi vont ressembler nos aliments dans le futur? Alors que s'est tenu cette semaine au Palais des Congrès de Québec Bénéfique, le grand rendez-vous international sur l'avenir des ingrédients et des aliments, nous nous sommes intéressés à l'état de la recherche en la matière au Québec et aux enjeux de commercialisation qui se posent dans le domaine. Éléments de réponse avec Laurence Pinard dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse C'est Science de notre économiste Audrey Azoulay. Elle nous livrera son plaidoyer pour l'éducation des sciences et technologies. Et enfin, nos invités cette semaine, c'est Sylvain Kowski et Julien Caudroy. Ils viennent nous parler d'un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur, celui des innovations corporatives, et on verra ce que ça donne en particulier dans l'aérospatial québécois. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 4 octobre 2018, nos aliments et ce que leur réserve le futur. Une question qui intéresse évidemment les consommateurs, les industriels et la recherche. Salut Laurence.
Salut Philippe.
Cette semaine, c'était gros événement à Québec sur le sujet.
Oui, c'est un événement qui s'appelle Bénéfique, où on se réunit pendant 3 jours pour parler des grandes tendances en alimentation comme la traçabilité des aliments ou la sécurité alimentaire. Alors, j'ai voulu en profiter pour mieux comprendre qu'est-ce qui se fait au niveau de la recherche sur les ingrédients et les aliments santé et aussi pour savoir où en est le Québec sur ces grandes tendances par rapport aux autres pays. Alors, j'ai discuté avec Yves Desjardins, qui est phytochimiste de formation et qui travaille à l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels. Alors lui, il m'a raconté qu'il a travaillé avec un consortium qui s'appelle Neurophénol, qui regroupe 3 compagnies québécoises et 1 française. Alors, ils se sont mis ensemble pour faire des recherches sur les bienfaits des polyphénols de petits fruits qui aident, entre autres, aux problèmes de cognition des personnes âgées. Alors, ils ont publié tous les résultats de leur recherche pour qu'ils soient accessibles au public. Alors, j'ai demandé à M. Desjardins comment le public bénéficie concrètement là, dans leur assiette du, et là, c'est sans mauvais jeu de mots, du fruit de ces recherches.
Voilà, joli.
On écoute sa réponse.
Ils ont formulé un produit qui est vendu à travers le monde maintenant, qui s'appelle Neurophénol. Et ce produit-là est vendu en Europe, aux États-Unis, en Asie.
Alors, on voit donc, Laurence, un exemple de découverte québécoise sur les aliments fonctionnels avec ce consortium, donc Neurophénol. Est-ce qu'on a d'autres exemples de ce que le futur de l'alimentation nous réserve?
Oui, là-dessus, j'ai parlé avec le professeur au département des sciences de l'alimentation de l'Université Laval, Ismaël Fliss. Il m'a parlé d'un projet de recherche qu'il a fait avec la compagnie qui fait du saumon fumé, Grizzly. Alors, Grizzly et le MAPAC voulaient réduire la teneur en sel du saumon fumé Grizzly. Alors, pour prévenir, en fait, ça, c'était pour prévenir les maladies cardiovasculaires, évidemment. Mais le problème, c'est que le sel a aussi un rôle antimicrobien. Alors, ils devaient trouver un ingrédient naturel capable de remplacer le sel à ce niveau-là. Alors, M. Fliss et son équipe, qui forment d'ailleurs là, l'une des 2 seules équipes à travailler sur les composés microbiens naturels au Canada, ont été donc recrutés par les gens de Grizzly et ils ont trouvé un nouvel ingrédient antimicrobien naturel. Ils ont même réussi à le faire homologuer par Santé Canada et ça, ça a pris 5 ans. Alors, il m'a dit que tout ce projet-là était vraiment un succès et que de faire ça en 5 ans, c'était vraiment exceptionnel. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qui a permis d'en arriver à un succès comme celui-là et on écoute là-dessus.
Dans ce cadre de le projet, on avait une entreprise qui a un esprit très, très ouvert, donc qui voulait vraiment investir en recherche. Il y avait beaucoup de personnes impliquées.
Donc, le milieu de la recherche répond, c'est ce qu'on comprend, aux tendances liées aux aliments santé. On est donc prêt, finalement. Est-ce qu'on sait si le Québec se distingue dans ce domaine à l'échelle internationale?
Oui, là-dessus, j'ai eu un son de cloche un petit peu moins positif là, de la part de M. Vincent Sabourin, qui est professeur de stratégie des affaires à l'École de gestion de l'UQAM. Si je reprends son expression, il dit que le Québec dort sa switch sur des innovations sur lesquelles d'autres pays sont déjà très avancés. On l'écoute.
En fait, ce que fait l'industrie au Québec, c'est qu'on répond à des tendances souvent qui viennent des États-Unis ou qui viennent d'ailleurs. Si vous voulez un truc technologique, là, la traçabilité agroalimentaire, c'est un domaine où le Québec a beaucoup de retard en comparaison avec des pays comme la France.
Alors, ce que M. Sabourin m'a expliqué, c'est que pour avancer sur des innovations comme la traçabilité alimentaire, là, qui est donc une grande tendance, il faudrait que tous les secteurs de la chaîne agroalimentaire travaillent en équipe. Et c'est ça le cœur du problème au Québec. C'est pas vraiment un problème technologique. Alors, c'est donc une bonne chose là, de réunir plusieurs acteurs du secteur alimentaire dans un événement comme Bénéfique si on veut être compétitif et rattraper ce retard-là.
Un exemple de plus, si besoin était, que la commercialisation fait donc partie intégrante du processus d'innovation.
Voilà.
Bah, merci Laurence.
C'est tout le sondage de la semaine.
Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
C'est un nouveau gouvernement qui s'installe au Québec cette semaine, nouvelle majorité, beaucoup de promesses, de nombreux défis. Alors tu commentais il y a quelques jours dans le cadre de la campagne électorale la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, puis cette piste de solution qui consiste à attirer des talents étrangers. Autre solution, former une main-d'œuvre qualifiée, et ça commence tôt, Audrey.
Effectivement, Philippe, on a eu l'occasion de rappeler à ce micro que l'immigration, parmi les réponses à la pénurie de main-d'œuvre, devait aussi être vue sous l'angle d'une course aux talents. Eh bien, je voulais aujourd'hui renchérir avec ces fameuses compétences en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, que l'on reconnaît aussi sous l'acronyme des STEAM, S-T-I-M, et qui constituent une préoccupation plutôt généralisée, considérant la place croissante de la recherche et de l'innovation pour la performance et le dynamisme des économies. Alors, pour mettre les choses en perspective, un chiffre. Sur les 10 ans qui ont suivi la crise de 2008, la croissance de l'emploi au Canada dans les STEAM ont augmenté 3 fois plus rapidement que dans les autres emplois. Et comme le mentionnait récemment une étude économique de la Banque TD, cette croissance ne sera pas passagère. Alors, si cette progression est au Canada largement concentrée dans les emplois en informatique et en génie, l'enjeu des STEAM ne concerne pas seulement la disponibilité de professionnels aux compétences avancées, mais il interpelle également de plus en plus les pouvoirs publics sur l'importance de ces disciplines parmi les fondamentaux de l'éducation. L'importance des STEAM comme éducation de base est pleinement soulignée d'ailleurs dans un rapport de 2015 du Conseil des académies canadiennes pour le compte du gouvernement fédéral, et qui faisait de la culture scientifique et technique une culture indispensable à notre capacité individuelle et collective de constamment nous adapter.
Adaptabilité, agilité, c'est un peu les nouveaux mots d'ordre. Audrey, l'avenir, est-ce qu'il appartient seulement aux esprits scientifiques ?
Alors heureusement, la vie est assez bien faite. À l'ère de l'intelligence artificielle où notre créativité sauvera notre utilité, les arts, les lettres et les sciences humaines resteront naturellement indispensables, pas simplement à notre progrès social, mais aussi à la capacité même des métiers scientifiques et techniques à contribuer durablement à notre prospérité. Les avancées ont besoin de disciplines diverses et les talents ont besoin d'être inspirés. Discipline par excellence des nouvelles idées, il semble d'ailleurs que les arts participent de plus en plus directement au développement des connaissances. Alors cependant, ne perdons pas de vue l'importance des compétences en STEAM. Les métiers du futur, même éloignés de la chaîne scientifique et technologique, tournent autour de la résolution de problèmes, de la capacité de collaborer pour innover, d'utiliser des technologies en constante évolution. L'apprentissage du code informatique, à titre d'exemple, semble s'imposer parmi les essentiels et grignote possiblement l'apprentissage des langues étrangères. Plus lourdement, ces compétences sont aussi au cœur des solutions au changement climatique ou à l'impasse qui se profile devant la croissance mondiale de l'énergie.
Belle transition pour nos invités, puisque dans quelques minutes, on parlera de collaboration et d'énergie verte. Merci Audrey.
C'est
Alors Laurence, cette semaine, d'autres sujets d'actualité qu'il ne fallait pas rater. Un en particulier a attiré ton attention, il concerne le fédéral qui met au défi les PME à innover.
Oui, en fait, c'est par l'entremise d'un programme qui s'appelle Solutions Innovatrices Canada qu'on va financer des petites entreprises canadiennes qui voudront se lancer pour trouver des solutions novatrices à 9 défis au total dans différents secteurs comme l'agriculture et le transport. Alors, pris ensemble, on dit que les fonds de 20 ministères et organismes vont représenter un investissement annuel de 100 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Et ça, ça va être pour que ces petites entreprises-là puissent faire de la recherche et développement et pour concevoir des prototypes. Alors, je te donne un exemple, Philippe, de défi. Il y a la garde côtière canadienne qui veut utiliser le mouvement des navires et des vagues pour réduire sa consommation de carburant. Et voudrait aussi pouvoir avoir recours à des sources externes d'alimentation électrique. Alors, beau défi en perspective.
Ouais. Et on rappelle et on vous invite à commenter l'actualité recherche et innovation sur notre plateforme cescience.ca ou bien sur notre page Facebook. Merci Laurence.
C'est tout, l'invité de la semaine.
C'est l'heure de nos invités. Cette semaine, Audrey, on reçoit Sylvain Kowski et Julien Caudroit.
Alors, Sylvain Kowski, oui, directeur exécutif du Garden, de Green Aviation Research and Development Network, et Julien Caudroit, directeur des communications au CRIAC et au CARIC, le consortium en aérospatial pour la recherche et l'innovation au Canada.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous venez pour nous présenter chacun un challenge. Alors, des challenges d'un genre particulier, puisqu'ils concernent tous les deux l'aérospatial. L'un s'appelle Viséo. C'est le vôtre, je pense, Sylvain.
C'est ça.
Il concerne les carburants durables pour l'aviation. Et puis l'autre s'appelle, alors on va l'appeler UK Canada. Hein, mm-hmm. Je n'ai pas trouvé d'autres noms, mais ça déjà, ça résume bien. Ça, c'est le vôtre, Julien.
Tout à fait.
C'est
ouais.
Ça. Et celui-ci concerne les tests aérodynamiques pour les aéronefs. Expliquez-nous en deux mots, c'est quoi le challenge justement dans ces deux initiatives. On peut peut-être commencer par Sylvain, tiens. C'est quoi le challenge?
Alors, le challenge pour les biocarburants, c'est d'être en capacité d'avoir au Canada du biocarburant disponible qui soit produit au Canada et non pas acheté à l'extérieur et distribué jusqu'au Canada. Donc, c'est d'avoir une chaîne d'approvisionnement disponible ici localement pour qu'on puisse réduire les émissions de CO2 émanant des vols commerciaux en particulier.
Donc ça, c'est un défi finalement de besoin, mais il y a aussi un défi de réunir, de rassembler tout un écosystème autour de...
C'est un immense défi parce que c'est une nouvelle chaîne d'approvisionnement. On part de zéro pratiquement. Il y a des gros joueurs industriels en énergie qui existent. Aujourd'hui, ils sont un petit peu partie prenante, mais ils sont encore assez timides sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, il faut aller de l'extraction, par exemple, des résidus forestiers. Donc, c'est des joueurs complètement nouveaux pour l'aviation. Jusqu'au raffinage, la conversion, etc. Donc, c'est des joueurs qui ne se connaissaient pas hier et qu'on essaie de mettre ensemble et qu'on essaie de construire des consortiums autour d'eux pour être en capacité d'aboutir très rapidement, parce qu'on a une urgence, d'aboutir très rapidement à avoir la chaîne d'approvisionnement prête pour pouvoir les produire, ces biocarburants.
Quel défi, quel challenge. Vous, de votre côté, Julien, c'est un peu la même problématique, j'imagine.
Il y a des problématiques qui sont assez proches du défi de Sylvain, en effet. Il y a peut-être des petits changements, parce que là, c'est un défi qui est sur un sujet très, très, très précis, très ponctuel, à la différence du défi visé plus haut, qui, lui, touche un pays en entier. La particularité de notre défi à nous, c'est qu'on cherche à utiliser l'intelligence artificielle dans le développement d'ailes d'avions. Donc l'idée, c'est d'utiliser des process d'intelligence artificielle avec de la vidéo pour reconnaître où se forme la glace sur les avions. Il faut savoir que la glace est la première source d'accident sur les avions dans le monde. Donc savoir construire des bonnes ailes, savoir déterminer où vont être les points où la glace va se créer, etc., c'est extrêmement important. Et pour cela, au jour d'aujourd'hui, ben, il n'y a pas d'outils. Et c'est pour ça que avec des partenaires au Royaume-Uni, avec Bombardier, on a lancé un challenge dont le but est de trouver des solutions, justement. Puis ce challenge, comme dans le cas de celui de Sylvain, il parle à tout le monde. Il parle à plein de gens et pas seulement en aérospatial.
Alors, à côté de cette tendance-là de recourir à l'innovation corporative, parmi les façons qui s'imposent là, dans les processus d'innovation, il y a aussi donc cette nouvelle tendance qui est celle des collaborations internationales. C'est votre cas, Julien, avec ce défi donc, d'innovation en intelligence artificielle, une collaboration qui associe des chercheurs anglais et canadiens. Qu'est-ce qui était la première motivation de cette relation finalement internationale? On connaît les avantages du Canada en termes d'intelligence artificielle, mais du côté du Royaume-Uni?
Ben justement, c'est ça le point. On est au Canada, et particulièrement à Montréal, à la pointe de l'intelligence artificielle. Puis ça nous apporte beaucoup d'opportunités. Et pas seulement domaine de l'intelligence artificielle, dans toutes les industries qui sont connexes. Puis on est de façon régulière, au jour d'aujourd'hui, on est contacté par différents pays qui veulent venir ici, à Montréal en particulier, au Canada en général, pour justement travailler l'intelligence artificielle dans différents secteurs. C'est un exemple parfait de technologie qui est transdisciplinaire. Et de ce fait-là, ben, on a ici les anglo-saxons, les anglais qui viennent. Bon, c'est pas l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni, pardon.
Mais voilà, tous les Anglais.
Voilà, les Anglais qui viennent. Mais
Sa Majesté la Reine.
Exactement, Sa Majesté la Reine. Mais c'est loin d'être le seul pays. C'est loin d'être le seul pays. Les Français aussi viennent de plus en plus. Puis on a de plus en plus d'intérêt à travers l'Europe en particulier. Puis même les Américains commencent à regarder un petit peu. Donc c'est plus leur volonté à eux de vouloir essayer de collaborer avec des structures ici. Nous, on est toujours ouverts à l'international. C'est dans nos gènes. Le CREA qui existe depuis 16 ans, pardon. Caric un peu moins, mais on a cette mission-là de la part des gouvernements de faire ça.
Mais là, c'est une collaboration, on le comprend bien, finalement, entre le Royaume-Uni et le Canada de votre côté. Julien, est-ce que vous, Sylvain, c'est pareil pour Viséo? Parce que je sais que c'est Ressources Naturelles Canada, donc le fédéral qui est derrière aussi ce challenge. Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont créées avec d'autres pays ou ça reste quand même un challenge canadien?
Alors oui, ça reste fondamentalement un challenge canadien. Encore une fois, l'objectif est de créer au Canada une chaîne d'approvisionnement. Donc bien sûr, il y a des contributions étrangères qui sont bienvenues. Il y a également une collaboration plus large qui est prévue entre le Canada, le Mexique et les États-Unis sur ce même thème des biocarburants, parce que les trois pays collaborent et travaillent fort sur ce domaine-là. Il faut savoir aujourd'hui que le seul biocarburant produit en Amérique du Nord, il est fait en Californie.
D'accord.
Donc, les tests qui sont faits encore aujourd'hui, quelquefois encore au Canada, sur des vols utilisant du biocarburant, le biocarburant vient des États-Unis, vient de la Californie. Donc, il y a une collaboration très forte qui est faite entre ces trois pays. Il y a des investisseurs étrangers également qui s'intéressent à ce qui se fait au Canada, parce qu'il faut savoir que le Canada, et la forêt en particulier canadienne, est reconnue comme une forêt qui est de catégorie développement durable, sur lequel il y a un label de développement durable, ce qui veut dire que le résidu du secteur forestier que nous souhaitons utiliser pour le biocarburant est considéré comme étant une source de développement durable, donc très attrayant en fait pour les entreprises.
Une source énorme.
Une source énorme. C'est la plus grande forêt catégorisée développement durable au monde. C'est un atout incroyable.
À côté des avantages là, liés à ces défis pour trouver des nouvelles solutions, il y a aussi un autre avantage qui touche plutôt les petites startups technologiques qui ont besoin de clients et de plateformes de commercialisation pour offrir à leur solution un nouveau marché. On voit aussi beaucoup de, au Québec, on voit beaucoup de grandes entreprises aussi qui ont des laboratoires. On pense à Desjardins, Desjardins Lab, absolument. Il y a même dans le domaine des services, Cossette.
Coca-Cola, qui a fait ça aussi.
Oui, ailleurs dans d'autres pays. Puis on a aussi le fameux Innoban de la Chambre de commerce de Montréal aussi, qui s'adonne à cette nouvelle tendance. Est-ce que ça devient une habitude, finalement, dans les grandes entreprises?
Une habitude, on l'espère. Mais c'est surtout pour les grandes entreprises de... l'opportunité de se tourner vers des gens qu'on ne connaît pas, et vice-versa pour les petites structures également, ça permet aussi de dérisquer. C'est pas rien, ça. Si on doit faire des recherches en interne pour trouver des solutions, il faut investir de l'argent, il faut investir du capital humain. Ça prend du temps. Chercher si la solution existe déjà ailleurs, ça sauve pas mal d'argent et de temps. C'est certain que... ça va devenir de plus en plus présent comme façon de faire, parce que les grandes entreprises y voient leur avantage.
Mais par exemple, Julien, excusez-moi de vous couper, mais Bombardier, qui est dans votre cas, Bombardier, effectivement, on pourrait se dire, il a ses équipes de recherche et développement. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça leur apporte de plus, en dehors du fait que c'est moins d'investissement lourd? Est-ce que ça apporte des résultats supplémentaires? Est-ce que ça les amène ailleurs dans un certain nombre d'innovations et de recherches? Concrètement, pour eux, c'est quoi le bénéfice?
Dans le cas de Bombardier, je pense aussi qu'ils ont un portefeuille de recherche qui est déjà extrêmement important. C'est certain qu'étant positionné ici, dans la grande région de Montréal, avec l'intelligence artificielle, il y a un moment ou un autre, ils ont un intérêt pour. Ils nous l'ont déjà dit à plusieurs reprises, ils ont un intérêt pour. C'est lancer la machine de la recherche dans des secteurs particuliers qui sont émergents comme ça, là, c'est souvent plus difficile pour les grosses structures que pour les petites, parce que c'est des grosses machines. Exactement. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des recherches à l'avenir en interne. D'accord. Je pense que c'est un bon moyen pour commencer, pour débuter, pour enclencher tout ça. Puis, c'est aussi un bon moyen, comme je disais tout à l'heure, excusez-moi le mot anglais, pour monitorer un petit peu, là, pour voir un petit peu ce qu'il y a à travers le pays en compétences. Là. Puis, c'est ce qu'on commence à voir. On a commencé à voir justement que les personnes qui répondent à ça ne sont peut-être pas les personnes auxquelles on s'attendait. Ce n'est pas les éléments TI obligatoirement de ce monde, c'est peut-être d'autres structures.
Intéressant.
Sylvain, la croissance du trafic aérien est invraisemblable et elle se confronte aussi avec l'urgence tout aussi invraisemblable là, de réduire les émissions et de répondre à toutes sortes d'enjeux évidemment environnementaux. Est-ce qu'on va être dans les temps, sans vouloir faire de ma question une question alarmiste?
C'est effectivement une très bonne question, puisque les objectifs que l'industrie elle-même s'est fixés sont extrêmement ambitieux. On n'a qu'à rappeler que nous souhaitons avoir une croissance neutre en carbone d'ici 2020. Alors, je parle de l'industrie mondiale de l'aviation qui s'est fixé ces objectifs. Et d'avoir une réduction absolue de 50% du taux d'émission de CO2 en 2050. Tout en considérant, tu l'as très bien dit, Audrey, une croissance phénoménale, disons soutenue d'environ 5% par année, année après année, un 5%. Ce qui veut dire qu'on ne bloque pas la croissance, mais on souhaite en même temps réduire de moitié la valeur absolue des CO2. Donc, c'est gigantesque comme ambition. Le calendrier est extrêmement serré. Il y a différents moyens pour y arriver. Alors, bien sûr, il y a des marchés carbone. Où ça paraît quelquefois plus facile d'acheter des crédits carbone, d'aller planter un arbre quelque part dans le monde et puis d'avoir l'impression d'avoir fait ce qu'il faut. Mais ça ne sera pas suffisant. Le développement technologique sur lequel Garden traditionnellement travaillait, c'est-à-dire tout ce qui est améliorer l'efficacité des moteurs, par exemple, pour les rendre plus efficaces, ça aussi, ça ne sera pas suffisant. Et on s'aperçoit qu'en fait, probablement l'endroit où on peut avoir le plus grand impact à court terme ou à moyen terme, ça dépend du temps qu'on se donne, c'est quand même les biocarburants. Donc, il faut comprendre l'urgence. de travailler sur les biocarburants aujourd'hui. Sans ce développement des biocarburants, les objectifs ne seront pas atteints.
Et puis on voit qu'il y a des débouchés effectivement commerciaux à la clé. Vous parliez tout à l'heure de ces résidus forestiers, justement dans le cas de ces biocarburants. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir l'impact que ça a sur la recherche ici au Québec. Je crois que d'ailleurs dans ce domaine-là, c'est à la TUC où on a des chercheurs qui effectivement travaillent à voir comment ces résidus forestiers, on peut les transformer en biocarburants. Comment vous instaurez un lien avec ce milieu de la recherche québécoise? Quel potentiel ça peut leur amener justement ces challenges? Est-ce que ça se mesure? Est-ce que vous avez déjà des retours? Quel est l'effet là aussi de...
Alors pour le challenge, c'est un challenge qui vient de démarrer. Donc on n'a pas encore le retour sur les résultats du challenge en lui-même. Par contre, on a déjà...
Et une volonté, j'imagine.
Oui, et puis Garden a déjà financé, depuis le démarrage de l'organisation en 2009, a déjà financé 5 projets de biocarburants canadiens. C'est probablement l'organisation qui en a fait le plus sur les biocarburants pour l'aviation. Et ça nous a permis de mobiliser l'écosystème, certains éléments de l'écosystème, et j'en découvre à tous les jours des nouveaux éléments de l'écosystème. Voilà l'importance d'ailleurs du challenge pour réunir autour de la table l'ensemble des joueurs qui doivent contribuer au développement de la chaîne d'approvisionnement pour le biocarburant. Mais il y a des projets en Colombie-Britannique, on parle des résidus des forêts de la Colombie-Britannique, du Québec également, il y a des projets d'algues, que ce soit en Alberta, aussi surprenant que ce soit, ou sur les provinces des Maritimes. Il y a également d'autres projets ailleurs dans le pays, mais il y a une nécessité de rassembler autour de la même table les différents intervenants.
Mais alors Sylvain, s'il y a des chercheurs, ils nous écoutent, ils veulent participer, ils trouvent votre challenge, puis même pour vous, Julien, ils trouvent ça passionnant. Comment ils peuvent participer? Quel profil vous recherchez?
Alors, nous, ce qu'on souhaite dans un premier temps, on s'est donné tout un calendrier. Alors, ce n'est pas nous qui menons le challenge. Nous sommes en appui à Ressources naturelles Canada sur cette histoire. D'accord. Nous avons également l'assistance de Air Canada et de WestJet qui sont des partenaires d'appui sur ce challenge, qui est très important à dire.
C'est moindre, oui.
Parce que ce sont eux, effectivement, qui feront les vols d'essai, les vols commerciaux utilisant du biocarburant à terme. Il y a une date importante, c'est que nous donnons un rendez-vous à l'ensemble de l'écosystème dans le cadre de la conférence Garden les 13 et 14 novembre,
c'est ça,
à Ottawa. Oui. Alors nous ne parlons pas que de biocarburant, bien sûr, lors de la conférence, puisqu'on parle à la fois de la réduction du bruit, la réduction des émissions de CO2, mais également d'avoir un développement durable sur l'ensemble de la chaîne de l'aéronautique. Mais l'ensemble, la constituante des biocarburants est probablement la pièce majeure de cette conférence. Donc c'est le lieu du rendez-vous.
Julien, un petit mot sur la recherche, justement, vous, à votre niveau, l'implication de la recherche québécoise?
L'implication de la recherche québécoise, elle est importante. Non, j'ai double chapeau. J'ai un chapeau qui est fédéral et un chapeau qui est provincial. Au niveau provincial, comme je disais, le CREAC existe depuis 16 ans. On a soutenu énormément de projets. Ça se compte presque en une centaine de projets. Donc, c'est vraiment des grands nombres. Là, si on prend le dernier événement, justement, d'idéation, de pitch d'idées que nous avons eu il y a quelques mois, on a eu 66 nouveaux projets de recherche qui ont été proposés au Québec uniquement, dans toute l'industrie aérospatiale. Et dans le cas de l'intelligence artificielle, c'était 13 projets. C'est absolument énorme. Ah, donc, c'est 13 projets de recherche où...
Ça répond.
Où concrètement, des industries pitchent des idées qu'ils veulent développer avec tout l'écosystème.
Bon, bah alors, globalement, ce qu'on entend, c'est qu'avec ces défis, vous offrez toutes sortes d'opportunités pour répondre à des besoins absolument urgents. Et peut-être une dernière question, s'il y avait un nouveau défi que vous auriez envie de lancer aujourd'hui qui n'est pas encore au top des priorités,
alors,
mais qui pourrait être intéressant là, pour les scientifiques québécois?
Je vais peut-être y aller avec un très gros. Ouais, avec un très gros. L'industrie aérospatiale va être de plus en plus présente dans notre vie au quotidien. On parle des taxis volants de plus en plus, là. Je ne sais pas si vous avez connaissance un petit peu du sujet, mais c'est une réalité. On commence à en voir. Il y en a déjà un qui vole en Chine. Bell, ici, à Mirabel, avec son HQ au Texas, prépare aussi son modèle, Airbus, etc. etc. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer ici au Québec, justement, dans cette industrie qui va naître et qui va peut-être révolutionner tous nos transports d'ici 5 à 10 ans. Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses là-dessus où on pourrait focusser là, un peu plus sur ce sujet-là. Donc, pourquoi pas un défi sur ce sujet.
Sylvain, envie de renchérir.
Ah oui, tout à fait, parce que lorsqu'on parle de mobilité urbaine, et Julien en parlait, le challenge numéro un de la mobilité urbaine va être le bruit. Vous le savez, aujourd'hui, le bruit est l'obstacle majeur du développement de l'industrie aéronautique. On le voit avec Heathrow, l'aéroport à Londres. On a l'impression que ça dure depuis toujours en termes de développement de la troisième piste. Le challenge, c'est le bruit. C'est-à-dire, on a beau avoir des avions efficaces, les gens qui vivent autour des aéroports, et encore plus lorsque ce sera de la mobilité urbaine, ne veulent pas avoir une nuisance de bruit. Donc, il faut absolument trouver des moyens. Probablement que le tout électrique va permettre d'avoir un peu moins de bruit, mais il est clair que le bruit est la nuisance numéro un sur l'industrie.
Ça, c'est votre défi numéro un. Pratico-pratique, les prochaines dates importantes de votre challenge, Sylvain, le challenge donc Viséo, ce sont notamment deux dates, vous les avez indiquées, on les rappelle, la conférence Garden les 13 et 14 novembre prochains à Ottawa, pendant lesquelles la communauté du Green Aviation, incluant celle des carburants alternatifs, se réunira. Et puis de votre côté, Julien, le challenge UK-Canada, alors il faut faire vite, hein, puisque l'appel aux candidatures, ça se clôt de ce vendredi 5 octobre, mais déjà 13, vous le disiez, 13 beaux projets reçus. S'il y en a qui sont encore intéressés, allez, 5 coca, 3 cafés, une bonne nuit sur un dossier. Ça aussi, c'est un beau challenge, donc allez-y.
Un peu plus de café.
Ouais, pas mal de café. Merci Sylvain Kowski, merci Julien Caudroy.
C'est mon plaisir.
Je rappelle, Sylvain, vous êtes directeur exécutif chez Garden, le réseau recherche et développement dans l'aérospatial vert. Et vous, Julien, vous êtes responsable des communications du CARIC et du CRIAC, alors que le grand CRIC me croque si je me trompe. Le CARIC, c'est le consortium en aérospatial pour la recherche en innovation au Canada. Et le CRIAC, bah, c'est le pendant au Québec.
Amen.
Allez, avant de se quitter, Laurence, ton top 3 des infos pratiques pour la semaine qui vient.
Oui, alors il y a la conférence internationale du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales qui portera entre autres sur les impacts de l'immigration sur la productivité en entreprise. Alors ça se passe le 11 et 12 octobre au HEC Montréal. Ensuite, c'est la 10e année du colloque aérotechnique. Ça, c'est une journée conférence sur l'innovation et les perspectives qui touchent plein de domaines liés au milieu aérospatial. Alors ça se passe à l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert le 11 octobre. Et finalement, il y a une formation sous forme de webinaire le 10 octobre. C'est une formation gratuite et c'est pour ceux qui s'intéressent à la gestion de données.
Et je vous rappelle que ce top 3 est consultable dans le détail sur votre plateforme d'information cscience.ca.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de La Bohème, par l'artiste évidemment regretté Charles Aznavour. C'est notre recommandation de la semaine, signée, je pense, Eve, hein, c'est ça, Eve. Eve, c'était Eve, voilà, qui a pensé qui a pensé au grand Charles, tout simplement. Ça pourra vous être utile pour vos travaux de recherche en labo. Merci Laurence, merci à Audrey, merci Sylvain Kowski et Julien Caudroy d'avoir été des nôtres cette semaine à la réalisation technique Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la recherche Sophia Samy et à la coordination plateau Eve Jasmin, Philippe Regnault au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine.
Sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire.